Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission présentée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aujourd'hui, sur le plateau de l'Union rationaliste, nous sommes trois. À ma droite, Guy Bruit. À ma gauche, Pierre Dardot. Guy Bruit, vous souhaitez présenter le dernier numéro de Raison Présente ?
En quelques mots. Dans un dialogue de Platon auquel Jean-Pierre Kahan consacre une belle étude, Théétète, jeune et génial mathématicien, évoque la connaissance de leur métier par les artisans. À quoi Socrate fait cette objection ? Le cordonnier a la connaissance des chaussures, mais qu'est-ce que la connaissance elle-même et quel est son rapport au savoir technique du cordonnier ? C'est autour de cette problématique qu'est construit le numéro 171 de Raison Présente qui va sortir ces jours-ci, il est chez l'imprimeur actuellement, et il est intitulé « Savoir, connaître, agir ». Tandis que Michel Blais définit notion et concept, Anastasios Brenner analyse la relation complexe entre scientisme et philosophie des sciences, Nathalie Chifflette s'interroge sur le rapport des technosciences et d'un imaginaire parfois archaïque, Christian Laval dénonce la marchandisation de la connaissance et Roland Gori s'inquiète de celle de l'homme même. Socrate ayant longuement ferraillé avec les sophistes, il était judicieux de clore ce numéro par l'analyse des procédés rhétoriques mis en œuvre par le président Sarkozy dans son discours sur la recherche. Comment tromper en étant convaincant ou comment convaincre en trompant ? Mais quand on sait que les sophistes étaient des penseurs profonds, on comprendra que cette question n'a rien de désobligeant ou d'injurieux.
Dans la lignée de ce numéro de Raison Présente, aborder en rationaliste une analyse de ce qu'est la société néolibérale. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui Pierre Dardot. Pierre Dardot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire. Et vous avez publié récemment, aux éditions La Découverte, avec Christian Laval, un ouvrage donc que les rationalistes que nous sommes ne pouvaient pas ignorer. Cet ouvrage, et c'est sur la société néolibérale, s'intitule « La nouvelle raison du monde ». Dans cet ouvrage, vous soutenez la thèse suivante. Loin de considérer que le capitalisme contemporain procède d'une logique chaotique ou irrationnel, d'une absence de logique, vous établissez au contraire qu'il procède d'une rationalité qui serait celle du néolibéralisme lui-même. Pour l'établir, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez d'abord par néolibéralisme ?
Oui, alors je crois qu'il est assez important de s'entendre sur la signification que l'on donne à ce terme, dans la mesure où il y a un préfixe, le préfixe néo, qui a ici une certaine importance. Et la première chose, je crois, qu'il faut faire, c'est bien différencier le néolibéralisme du libéralisme classique. Le libéralisme classique, tout le monde en a une idée plus ou moins précise, mais c'est un libéralisme qui, contrairement à ce qu'on peut penser, a présenté plusieurs visages ou plusieurs faces. On peut grosso modo en distinguer trois. Il y a d'abord celle de Adam Smith, qui fait donc du marché une sorte de limite à l'action gouvernementale, ce qui ne veut pas dire que pour lui le gouvernement doit se garder d'intervenir, mais c'est une problématique des limites. Et on retrouve cette problématique des limites de l'action gouvernementale chez deux autres représentants du libéralisme classique. On trouve cette problématique des limites chez quelqu'un comme Locke, puisqu'il s'agit essentiellement de définir des sujets de droit et de considérer que ces droits constituent justement des limites de l'action gouvernementale. Et on trouve une problématique des limites, quoique assez différente, avec une inflexion qui est très moderne parfois chez Bentham, qui est un philosophe assez important de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, et qui, lui, pense en termes de calcul d'utilité ou de calcul d'intérêt. Donc là, on a, même si ce n'est pas homogène, on a une démarche qui est relativement commune, qui est centrée sur la question de la définition des limites de l'action gouvernementale. Ce qui nous est apparu très important à relever, c'est que justement avec le néolibéralisme, ce qu'il y a de nouveau dans ce néolibéralisme, c'est précisément que sa question n'est plus celle des limites. Donc on a souvent des discours dans lesquels il est question des limites de l'action de l'État, de mettre des garde-fous à l'intervention de l'État parce qu'il y a un risque d'omnipotence ou en tout cas de choses qui sont très dangereuses derrière. Bon, ça, ce sont des références au discours classique, mais derrière le discours classique, il y a des choses qui sont tout à fait nouvelles. Et même dans le discours lui-même, affleure cette nouveauté. Alors je crois que c'est important à noter, dans la mesure où finalement il y a une sorte de retournement, c'est-à-dire que le néolibéralisme opère comme une sorte de retournement de la question traditionnelle qui était celle du libéralisme classique. Son propos à lui, c'est pas de déterminer des limites. Mmh. Son propos à lui, en l'occurrence, je parle du néolibéralisme en tant que doctrine, hein. Son propos à lui, c'est plutôt de se demander finalement par quels moyens, de quelle manière, comment étendre, réaliser l'extension la plus grande possible de la logique qui est au cœur du fonctionnement du marché. C'est une démarche qui est complètement différente, parce que ça implique de faire jouer, paradoxalement, à l'État et au gouvernement, un rôle auquel n'avaient absolument pas songé les libéraux classiques. Il s'agit, pour dire les choses de façon assez schématique, pour le néolibéralisme, de faire de l'intervention de l'État dans la société le levier de la transformation de toutes les relations sociales. Et ça, c'est une ambition, c'est un objectif. Pour ceux qui raisonnent en termes d'objectifs stratégiques, politiques, etc., c'est une ambition qui ne peut absolument pas se mesurer à celle qui était celle des pères du libéralisme classique. C'est plus du tout la même approche, c'est pas du tout la même question. Je crois que ce qui est important surtout à noter, c'est que ça n'est absolument pas la même question. Donc il n'est pas du tout étonnant qu'on ait affaire aujourd'hui, de façon finalement assez curieuse ou assez étrange au premier abord, à une multiplication de l'intervention de l'État, alors même que ceux qui sont à la tête de l'État se disent eux-mêmes néolibéraux, mais ça n'est pas du tout un paradoxe. Il y a là quelque chose de profondément logique et de profondément cohérent, justement. Alors là, pour le coup, là, c'est très logique. C'est pas du tout le chaos, c'est pas du tout l'apparence que ça peut donner avec la folie qui est celle des marchés boursiers. C'est quelque chose, au contraire, de très calculé et parfois de très réfléchi.
Et est-ce que c'est en ce sens qu'on peut parler d'une nouvelle raison ou d'une nouvelle rationalité ?
Alors, il y a deux choses à distinguer, justement. Cette question est très bienvenue parce que la notion de rationalité est une notion qui est un petit peu équivoque. On peut parler de rationalité, par exemple, à propos d'une certaine démarche, lorsque quelqu'un est amené à faire usage de sa raison. Il y a là une certaine manière, par exemple, je ne sais pas moi, de déterminer sa conduite. Bon, on dira, par exemple, que quelqu'un fait un certain usage de sa raison pour se décider à agir de telle ou telle manière. Là, rationalité, ça ne veut pas dire exactement ça. Nous reprenons le terme à Michel Foucault, qu'il a mis au point, élaboré dans plusieurs textes, dont notamment La naissance de la biopolitique, auquel nous faisons souvent référence parce que c'est un texte qui est véritablement pionnier, qui a été écrit à l'époque de Giscard, hein, sur le néolibéralisme, et qui nous en apprend encore beaucoup aujourd'hui sur ce qui est notre lot quotidien. Alors, je crois que justement, cette notion est très importante, parce que le mérite de cette innovation de Foucault, c'est de rendre raison, si je puis dire, de la façon dont des individus sont amenés à agir dans des situations données, alors même qu'ils n'adhèrent pas à certaines valeurs, donc ils n'ont pas une adhésion idéologique. Ça ne fonctionne pas par attraction intellectuelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement mettre des individus dans des situations telles que finalement, on n'a même plus besoin de leur demander de faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Et ils le font d'eux-mêmes. Parce qu'on les met dans une situation où finalement, ils se disent très très vite, soit j'accepte de jouer la règle du jeu, soit je suis éjecté, purement et simplement.
Un conditionnement, une intériorisation.
Une sorte de conditionnement, je dirais, alors ça c'est important cette notion de conditionnement, pas au sens du conditionnement de la propagande, parce que là encore, ça serait uniquement un rapport de conscience à conscience, une conscience qui en manipulerait d'autres, etc. C'est ce que l'on pourrait appeler à la suite de Michel Foucault une logique des pratiques. C'est-à-dire qu'en fait on se situe sur le plan de ce que les individus font ou sont amenés à faire. Et donc, ce n'est plus tant la contrainte, si vous voulez, qui s'exerce d'une volonté à une autre. C'est-à-dire, on ne cherche pas à dire à l'individu « tu dois faire ça ». Il n'y a pas d'injonction comme ça directe. On a très souvent, en particulier dans les philosophies classiques, eu tendance à amalgamer l'activité de gouvernement ou de direction des hommes avec une activité de commandement. Or, là, c'est beaucoup plus subtil. Justement, c'est une mise en condition, un conditionnement au sens d'une mise en condition. Et en ce sens-là, je dirais que si contrainte il y a, ce n'est pas la contrainte d'une autre volonté, c'est la contrainte d'une mise en situation. C'est la contrainte d'une mise en condition. Or, ça, c'est très efficace. Ça opère au plan des pratiques. Et on peut se dire à la fois que c'est quelque chose d'assez économique, dans la mesure où on ne demande pas aux individus d'adhérer directement à une idéologie. Et puis, c'est quelque chose d'efficace, dans la mesure où ça fonctionne à partir du moment où la règle du jeu est préalablement définie. Et c'est en général ce qui se passe. On fait en sorte que la règle du jeu soit très précisément définie.
Si je comprends bien, le but, s'il y a un but de votre analyse, c'est de comprendre l'intelligence de cette rationalité, parce que c'est cette intelligence de cette rationalité qui seule peut permettre de lui opposer une véritable résistance. Et on voit aujourd'hui, me semble-t-il, toute l'actualité de votre réflexion si précisément le néolibéralisme conduit à une sorte d'érosion de la personnalité, une atomisation. Je pense évidemment à la vague de suicides due au stress dans certaines entreprises aujourd'hui.
Oui, alors malheureusement, l'actualité est là pour nous rappeler que cette contrainte des mises en situation ou des mises en condition n'est pas purement rhétorique. Et en effet, il y a donc des stratégies, alors là, en un sens très très élémentaire, c'est-à-dire des stratégies au sens du calcul de certains moyens pour obtenir certains objectifs de la part de certaines personnes. Il y a en effet des stratégies de ce type qui sont mises en place dans les entreprises privées, des entreprises qui étaient peut-être publiques il y a encore quelque temps, ou des entreprises publiques elles-mêmes. Parce qu'il faut savoir que cette mise en condition ne touche pas simplement les entreprises privées, et que ça touche au cœur même de la fonction publique aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle politique qui est une politique de gestion managériale de la fonction publique, avec un langage, avec une rhétorique, avec des objectifs qui sont exactement ceux du management privé. Donc on a fait beaucoup de cas, et c'est tout à fait normal, de ce qui s'est passé à France Télécom. Je trouve personnellement que les termes utilisés par le président de cette entreprise sont pour le moins déplacés, et même plus que ça, parce que parler de mode ou parler de contagion à propos de ce qui s'est passé, c'est vraiment à la limite de l'ignoble. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qui est beaucoup plus général. Il y a des gens qui ont tout de suite essayé de dire « Ah non, c'est l'exception, vous savez, ça se passe très bien dans les autres entreprises ». Alors il y a, il faut le savoir, vraiment un management qui consiste justement à jouer un petit peu sur les motivations de la conduite, justement, plutôt que d'imposer par la contrainte. Mais on va jouer sur un double ressort. On va jouer sur le ressort qui est celui de la rivalité, et on va jouer sur un autre ressort qui est celui de la peur. De la peur. La peur d'être mal évalué de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Et la peur d'être mal évalué, ça se retourne par une sorte d'intériorisation, ça se retourne en une forme finalement d'auto-évaluation culpabilisante. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je ne sais pas si je suis à la hauteur », on s'interroge sans arrêt sur la capacité que l'on a à atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le manager. Et ça, c'est terrible, parce que on commence, par exemple, dans une équipe à mettre une dizaine d'individus en concurrence. On leur dit, on leur annonce ce qui se fait dans certaines situations, que deux d'entre eux vont devoir partir ailleurs, se délocaliser ou trouver un autre emploi, etc. Mais on ne leur dit pas, évidemment, les deux qui seront sélectionnés. Et on les met en situation de concurrence pour que, justement, la rivalité aidant et la peur aidant, on arrive à obtenir cela. Uniquement du fait de la logique de la situation. Voilà. Et on voit finalement, au bout du compte, celui qui tient le choc ou pas. Et il y a même, dans le cas de France Télécom, des conseils et des directives qui sont données aux managers qui relèvent vraiment d'un exercice, alors là, pour le coup, d'un usage de la raison, mais qui est assez pervers, hein, qui consiste à prévoir, à anticiper ce que finalement le collaborateur va dire, sa déception. Il y a une courbe de deuil comme ça dans certains documents où on prévoit donc la façon dont il va réagir dans un premier temps, et on va le pousser vers le haut pour que finalement, comme on dit, il positive de telle manière que finalement il accepte, qu'il se rende compte qu'il n'y a pas d'autre moyen et que pour le bien de l'entreprise et son propre bien, il faut qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Bon, tout cela est décrit fort minutieusement dans un certain nombre de manuels, de fichiers, de brochures, etc. Mais je crois que c'est ça, la rationalité. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui relève d'un bon usage de la raison, mais c'est vraiment une rationalité qui est à l'œuvre, au sens où, encore une fois, c'est une certaine logique par laquelle, finalement, des normes se trouvent commander la pratique ou l'action des gens. Voilà exactement ce qu'il faut entendre, nous semble-t-il, par rationalité.
Alors vous, en tant que philosophe et sociologue, je pense à Christian Laval, vous analysez les ressorts de ce néolibéralisme, mais évidemment, la place dans la pratique reste libre pour d'autres formes de réflexion et d'action possibles pour répondre à cette société néolibérale. Pour clore notre entretien, j'ai coutume de poser à mes invités rationalistes la question suivante que je vous soumets à votre tour. Vous définiriez-vous comme un rationaliste et qu'est-ce que pour vous le rationalisme ?
Oui, alors je crois que la question vaut la peine d'être posée parce que sous le mot de rationalisme, on entend parfois des choses extrêmement différentes. C'est un rationalisme qui est élargi, en ce sens que ça ne consiste pas à rejeter dans l'irrationnel tous ceux qui ne procèdent pas directement de certaines exigences abstraites qu'on pourrait faire valoir en tout temps ou en tout lieu, de manière à les opposer comme ça abstraitement à ce qui existe. Ça, je pense que ça n'est pas du tout une bonne définition du rationalisme. En tout cas, je ne me sentirais pas et je ne me définirais pas comme rationaliste s'il faut donner ce sens-là. Mais en revanche, faire jouer la raison comme instance critique... En faisant en sorte que cette instance critique se nourrisse de la compréhension du monde, c'est-à-dire de ce qui existe, et soit capable de mettre à nu, de dévoiler ou de dégager derrière le fonctionnement des choses une certaine logique, comme ce qu'on a essayé de faire, ça me paraît relever du rationalisme au sens où je l'entends. Et donc, ce qui me paraît aussi relever du rationalisme en ce sens élargi, c'est le fait que cette rationalité, qu'on appelle la rationalité néolibérale, n'est pas du tout une rationalité exclusive. Elle domine, elle est dominante, mais il y a d'autres rationalités, fort heureusement, sinon ce serait désespéré. Il y a des rationalités à l'œuvre dans la pratique des hommes qui sont malheureusement subordonnées, hein, qui sont soumises, qui sont dominées. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont dominées qu'elles n'existent pas. Donc je crois que le rationalisme, le véritable rationalisme consiste à faire usage de la raison à la fois pour décrypter, dégager, dévoiler la rationalité dominante, et pour en même temps mettre en évidence l'existence d'autres rationalités subordonnées, mais qui sont des points d'appui pour la résistance, justement, à la rationalité dominante. Voilà ce que j'appellerais donc le rationalisme.
Pierre Dardot, je vous remercie.
Dans le prochain numéro des Cahiers rationalistes, qui va paraître également ces jours-ci, de même que Raison présente, une étude de Gabriel Gaud sur Darwin et l'Union rationaliste, bicentenaire de Darwin, et un texte extrêmement riche et intéressant de Gérard Fussmann, Niqab, Hijab et Burqa. Aussi, une émission de radio précédente d'Emmanuel Huisman-Perrin avec Georges Cormes, Combattre la vision binaire du monde. Vous pouvez réécouter le texte de cette émission présente aujourd'hui sur le site de l'Union rationaliste.